Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, soyez les bienvenus. RFI vous donne la parole dans 30 minutes. Nous lancerons le débat sur les élections législatives au Sénégal. Nous sommes à jour J-4 et ces élections, vous le savez, sont hors normes. D'abord par le nombre de listes, 47, c'est un record. Ensuite, parmi les principales têtes de liste, nous avons le Premier ministre, un ancien président de la République qui, à 91 ans, a décidé de se présenter aux législatives. C'est inédit. Et nous avons également le maire de Dakar qui est en prison depuis le mois de mars. C'est donc de sa cellule qu'il dirige sa campagne et à cela s'ajoutent des problèmes dans la distribution des nouvelles cartes d'identité, des cartes qui sont indispensables pour voter. Autant dire qu'à l'heure actuelle, de nombreux Sénégalais pourraient bien ne pas pouvoir exercer leur droit de vote dimanche. Donc rejoignez-nous, prenez la parole en direct sur RFI, venez commenter la campagne et les élections législatives sénégalaises. 33 9 693 693 70. Vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de l'émission avec des commentaires particulièrement critiques à l'égard des autorités. Bira nous dit « La façon dont ces élections sont organisées est une véritable honte pour notre démocratie. C'est pitoyable pour l'image du pays », affirme Abdoulaye. Oumar s'indigne « Dépenser 50 milliards de francs pour confectionner les nouvelles cartes et elles ne sont pas prêtes. Il y a trop de légèreté dans l'organisation de ces élections. » Le débat s'annonce donc passionnant et ce sera donc en direct sur notre antenne dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, vos questions à la rédaction d'RFI, vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Jean Faustin est avec nous, il nous appelle de la région parisienne. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Et vous avez des questions sur la fortune du clan Kabila en République démocratique du Congo.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs d'RFI. L'agence de presse Bloomberg et les groupes d'études sur le Congo ont publié de nouvelles révélations concernant la famille Kabila, notamment de son frère Joré Kabila. Comment Joré Kabila a-t-il réussi à construire cet empire financier depuis 2001 et comment l'agence de presse Bloomberg et les groupes d'études sur le Congo ont-ils pu avoir accès à ces documents concernant Joré Kabila?
Ouais, cette enquête qui met en lumière le véritable empire que Joré Kabila, le jeune frère du président, a réussi à créer. Bonjour Sonia Relais.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Sonia Relais. Vous vous êtes plongée justement dans cette enquête réalisée par l'agence de presse économique Bloomberg. Que sait-on déjà de la fortune de Joré Kabila?
Alors ce qu'on sait, c'est qu'il est, il a des parts directement ou même le contrôle pratiquement effectif d'au moins 12 sociétés. Donc ça, c'est déjà une première idée et vraiment une construction qui s'est faite avec le temps. Par exemple, Number One Contracting a été une société qui a été particulièrement florissante dans le bâtiment. Dans cette société, il a à peu près 50%, 60% des parts. Et cette société a eu donc 11% du marché de la construction pendant 4 ans, entre 2004 et 2008. C'est donc des dizaines de millions de dollars de revenus chaque année, 14 millions même pour être exact par an. Ça, c'est une société. On connaît Kocha Investment qui a construit un hôtel de luxe sur la côte, par exemple, qui est connu, qui a des parts dans beaucoup d'autres sociétés.
Notamment dans des compagnies aériennes.
Compagnies aériennes.
Une chaîne de fast-food.
Nando, exactement, sur lequel il a pris des parts. Donc tout cela, on l'a vu se développer. Donc parfois, il prend le contrôle avec certains membres de sa famille. Des enfants, par exemple, du président se retrouvent en relation d'affaires avec ses frères et ses sœurs. Ça, c'est assez courant. Et donc, tout cela est entremêlé. Et aujourd'hui, en fait, il ne se cache pas de cette fortune-là. Cet hôtel de luxe a été inauguré par son frère l'an dernier, en grande pompe. Il y avait les ministres qui étaient là. Ça a été reconnu comme étant un gros investissement en termes de développement et de tourisme. C'est un hôtel de luxe auquel la plupart des Congolais ne peuvent pas accéder. Évidemment.
Alors vous citiez à l'instant l'entreprise Number One Contracting. Elle est intéressante cette société parce que le nom de Joré Kabila n'apparaît pas forcément et systématiquement dans toutes les sociétés, en l'occurrence dans celle-ci. Parfois il utilise un pseudonyme, celui de son père.
Oui, et c'est souvent des anciennes identités qu'ils ont utilisées pendant la guerre, sur lesquelles ils ont pu avoir des papiers d'identité à une époque. C'est Joré Francis Toilé. Donc là, évidemment, il ne se cache pas vraiment quand il utilise ce nom. Tout le monde sait que c'était le pseudonyme de son père. Et c'est ça justement qui est intéressant, c'est qu'il ne se cache pas vraiment en fait, parce que tout simplement il est député, il peut avoir des activités commerciales, et ça c'est clairement expliqué.
Alors Bloomberg, dont on parle et qui est à l'origine donc de cette étude, a publié un autre rapport avec le groupe d'études sur le Congo, qui est un groupe de recherche basé aux États-Unis. Et ce rapport-là s'intéresse vraiment à la richesse de tout le clan, Kabila, de toute la famille.
Voilà, c'est ça. Il y a une dizaine de personnalités qui sont citées. Il y a même un tableau absolument gigantesque où on voit chacun des membres de famille et les parts qu'ils ont dans les autres, avec des liens qui lient toutes ces sociétés, donc ces quelques 80 sociétés, avec ces dizaines de personnalités, donc les frères, les sœurs, les enfants du président, la femme du président, tout le monde est dans ce business-là.
On les voit enfants du président qui sont, précisons-le, mineurs.
Oui. Oui, oui. Ça, on fait des affaires en famille. Oui. Ça, c'est très clair. Et on voit par exemple que la famille, le clan Kabila, a en termes de propriété terrienne au Congo, 10 fois l'île de Manhattan, par exemple. Ou un niveau de contrats miniers sont liés à des contrats miniers sur la frontière avec l'Angola, donc au Kasaï, pour 720 kilomètres de concessions minières. Qui la plupart du temps, ils exploitent même pas, en tout cas officiellement, puisque c'est un contrat de force majeure, c'est-à-dire que c'est une sorte de coffre-fort. Ils l'exploitent pas, ils ne payent pas de taxes non plus, mais ils l'ont, en termes de concession, jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus l'avoir.
Ouais. D'où vient tout cet argent ?
Alors, ça, c'est le plus compliqué. On sait qu'il y a des deux guerres au Congo. On sait que pendant ces guerres au Congo, les rébellions auxquelles ont participé notamment la famille du président, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, ont eu des territoires au Congo sur lesquels il y a eu des affaires qui ont été faites. On était en période de guerre, il n'y avait pas encore de règles. On peut tracer le début de la fortune des Kabila à partir de 2002 et du code minier, par exemple, à partir du moment où un groupe comme le groupe d'experts qui s'occupait justement de l'exploitation illégale des ressources commence à faire des rapports. Là, on peut commencer à avoir des documents intéressants. Mais c'est surtout, ce qu'on sait, c'est que la propre mère du président disait à l'époque, en 2006... que finalement, elle n'avait qu'un petit lopin de terre en Tanzanie. C'est-à-dire qu'avant la guerre, ça c'est clair, c'était une famille plutôt pauvre en Tanzanie qui vivait sous la protection du régime tanzanien et qui a commencé à s'enrichir à partir du moment où cette rébellion a commencé. Donc ça, c'est ce qu'on sait, mais c'est vrai que sur l'origine de la fortune, et c'est toute la question qui est posée par ces rapports, c'est d'où vient cette fortune-là, comment peuvent-ils accroître leur fortune comme ça et avoir autant de contrats.
Jean Faustin nous demandait, et rapidement Sonia Rollet, parce qu'on a d'autres questions sur d'autres sujets, comment l'agence de presse et le groupe d'études sur le Congo ont-ils réussi à obtenir tous les documents permettant de réaliser un tel rapport?
Ben c'est là où on voit qu'en fait il y a toute une partie qui n'a pas été faite sur le Congo, puisque tout est des sources publiques. C'est le journal officiel en fait, c'est le registre du commerce, c'est un site internet sur lequel on peut trouver toutes les concessions minières, parce qu'il y a eu des efforts comme ça, mais eux ont fait finalement 1+1 égale 2. Donc ils ont fait vraiment ce mapping là des propriétés de la famille, mais ce n'était pas caché, c'est pas, et donc sur le fond, il n'y a pas grand chose qui a été répondu par la famille elle-même, parce que tout est finalement écrit noir sur blanc.
Ouais, donc gros travail quand même de compilation, d'études, même si tout était finalement public, puisqu'il suffisait d'aller jeter un coup d'œil dans le journal officiel en l'occurrence. On a répondu à vos questions, Jean Faustin ?
Oui, oui, oui.
Bonne journée alors.
Merci, bonne journée à vous.
Merci, bonne journée, à bientôt. Sonia Rollet, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions. Vous écoutez les journaux de RFI. Vous souhaitez peut-être un complément d'information. Et bien, surtout, n'hésitez pas. Vous nous appelez tout au long de la journée. Le standard est ouvert. 33 9 693 693 70. Et nous vous répondons en direct durant les 20 premières minutes de l'émission tous les matins. Esdras Zikoumana du service Afrique d'RFI vient de nous rejoindre. Bonjour, Esdras.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de venir ce matin car nous avons des questions sur le Burundi et notamment sur la visite du président Nkurunziza en Tanzanie. C'était il y a quelques jours. Benny Aurel est avec nous. Bonjour. Allô, Benny Aurel ? Alors, a-t-on perdu notre auditeur qui est en ligne de Bujumbura ? J'ose espérer que... Alors, on a un petit souci. Je vais me faire le porte-parole en attendant de retrouver Benny Aurel, puisqu'il avait plusieurs questions. Je le disais, donc, visite de Pierre Nkurunziza en Tanzanie. C'était la première fois qu'il quittait le Burundi depuis la tentative de putsch en mai 2015. Et Benny Aurel nous demandait quels sont les intérêts du président burundais à se rendre en Tanzanie et comment expliquer la forte délégation qu'il a accompagnée pour cette visite de à peine peine de 24 heures. C'était vraiment une visite éclair. Peut-être avant de répondre à sa question, et ça permettra de planter le décor, expliquez-nous déjà pourquoi Pierre Nkurunziza n'a fait aucun déplacement à l'étranger ces deux dernières années.
Eh bien, pour comprendre cela, il faut se rappeler que le Burundi traverse une grave crise politique depuis bientôt plus de deux ans, qui est née de la volonté du président Nkurunziza justement de briguer un troisième mandat. C'est une crise qui a des effets majeurs, notamment économiques. Eh bien, le problème aujourd'hui, c'est que le dialogue de sortie de crise qui est organisé sous les auspices de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ce dialogue est totalement en panne car Bujumbura refuse de dialoguer avec son opposition en exil. Et Bujumbura persiste dans ce refus malgré les pressions de la communauté internationale, les sanctions de l'Union européenne notamment. Eh bien, des sources diplomatiques expliquent que Nkurunziza s'était abstenu de voyager à l'étranger jusqu'ici, eh bien, surtout pour éviter les pressions de ses pairs.
Ah voilà. Donc c'est éviter les pressions de ses pairs et pas forcément parce qu'il craignait une énième tentative de coup d'État.
Oui, absolument, c'est surtout ça. Et donc la preuve un peu là, c'est que Nkurunziza a évité de participer aux nombreux sommets de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, au sommet des chefs d'État justement, qui traitait de la question burundaise. Il a toujours délégué et donc lui a évité de rencontrer ses pairs jusque-là.
Oui, il faut dire aussi qu'il a eu que le principal médiateur de cette crise, le président ougandais, a à plusieurs reprises essayer de le rencontrer. Et jusqu'à présent, les deux hommes ne se sont jamais vus.
Alors, il a essayé à trois reprises au moins de le rencontrer. Il a proposé d'aller à Bujumbura. Il a proposé de le rencontrer en Tanzanie. Nkurunziza a toujours prétexté ou a toujours invoqué un calendrier très chargé. Et donc, finalement, les chefs d'État de la région ont décidé de passer par le président tanzanien Magufuli pour une raison très simple. En fait, le Burundi et la Tanzanie, surtout le régime de Nkurunziza, ont des liens particuliers. Sachez que c'est un rappel, Nkurunziza, la Tanzanie a été le principal soutien, a été la principale base arrière de la rébellion du CNDD-FDD qui est aujourd'hui au pouvoir, et c'est aussi considéré aujourd'hui comme le principal soutien de Nkurunziza. Et donc il a préféré rencontrer celui-là, Magufuli, plutôt que Museveni, qui est plutôt proche du Rwanda et dont il se méfie énormément.
Ouais. Benny Aurel nous demandait comment expliquer la forte délégation qui accompagnait le président Nkurunziza. C'est vrai que la liste de ceux qui étaient à ses côtés était impressionnante.
Oui, le président est parti par exemple accompagné de son numéro 2, le ministre de la Sécurité publique, le général Alain Guillaume Brugnoni, le ministre des Affaires étrangères, celui de la Défense et celui des Finances aussi. Eh bien, sachez que officiellement, ils ont présenté cette visite comme une visite qui était censé relancer les relations plutôt économiques entre les deux pays. Et donc, ils n'ont jamais parlé de cette question, du dialogue inter-burundais. Mais des sources diplomatiques assurent que la question du dialogue de sortie de crise au Burundi devait être au cœur de leur discussion. Les services de communication de la présidence burundaise, bien sûr, continuent de nier. Les diplomates, eux, disent qu'on ne devrait pas tarder à savoir ce qui s'est dit réellement lors de cette fameuse rencontre.
C'est-à-dire que 5 jours après ce face-à-face, on ne sait toujours pas de quoi les deux présidents ont discuté. On me dit que Benny Aurel est avec nous. Cette fois-ci, le réseau fonctionne. Benny Aurel ?
Ok, pour la deuxième question, comment peut-on expliquer que les médias locaux et les chaînes de télévision n'ont pas commenté cette visite ?
Ah, ça n'a pas été le cas.
Non, ils les ont commenté. Il fallait bien suivre. Non, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est que la préparation de la visite a été tenue très secrète en fait, notamment pour des raisons de sécurité. Et je me souviens bien que à quelques heures de la rencontre, j'ai essayé de contacter la présidence. Il niait ce rendez-vous à peine 2-3 heures avant la rencontre. Et donc, ils ont tenu secret. Et c'est un site proche de la présidence, Ikirio, qui a commencé à en parler lorsque le président burundais Nkurunziza a franchi la frontière avec la Tanzanie. Et donc, les premières photos qu'ils ont montrées, c'était lorsqu'il a passé la frontière, et c'est à ce moment qu'ils ont commencé à en parler. Il y avait un journaliste de ce site qui l'avait accompagné, puis la radio-télévision nationale est entrée dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les deux cas, eh bien, on a eu droit à une couverture plutôt factuelle, dont l'objectif était de conforter la version officielle, de montrer que le Burundi est un pays qui est en paix, et sur ce plan-là, eh bien, on peut dire qu'ils ont réussi.
Et ils ont réussi, d'ailleurs, le président Nkurunziza a appelé les réfugiés burundais vivant en Tanzanie à rentrer au pays. Le président tanzanien lui-même a appelé les Burundais à retourner dans ce pays qu'ils qualifient tous les deux en état de paix aujourd'hui. Merci beaucoup Ezra Zikumana d'être venu répondre à Benny Aurel. Benny Aurel, bonne journée à Bujumbura et désolé pour les petits problèmes de réseau téléphone, ça nous arrive évidemment parfois, comme l'émission est en direct, tout peut arriver. Il est 10h25 ici à Paris, Thomas de Saint-Léger du service des sports est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Juan.
Après avoir sillonné une partie de la France, puisque vous nous avez permis de vibrer tout au long du Tour de France, nous allons parler justement de ce Tour de France 2017 avec une question qui est revenue, allez, 10, 15, 20 fois peut-être depuis dimanche. Lazare, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Thomas.
Vous êtes à Lomé au Togo, nous vous écoutons.
Bon voilà, après 3 semaines de course, le Tour de France est arrivé dimanche dernier, suit la 4e consécration de Christophe Froome dans cette compétition majeure. Comment expliquer le fait que Froome ait gagné le Tour sans pour autant avoir remporté une seule étape?
Alors, ça, c'est le grand mystère pour de nombreux auditeurs, Thomas Saint-Léger. Christopher Froome, qui remporte son 4e Tour de France sans gagner la moindre étape. Comment est-ce possible?
Bon, déjà, il y a une explication technique. Le classement du maillot jaune, c'est un classement au temps cumulé. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de gagner une étape. Ça reste une question pertinente, une situation assez inédite. D'ailleurs, ça n'était pas arrivé depuis l'édition 2006 du Tour de France remporté par Oscar Pereiro. Cette question, on l'a d'ailleurs posée à Chris Froome, vous l'imaginez, tout au long de la dernière semaine, à chaque fois la même réponse du Britannique, j'ai le maillot, mais sur un ton voilà qui traduisait de la frustration, voire de l'agacement. L'explication, elle est assez simple, elle est physique. On a eu un Froome moins dominateur, moins souverain que les années précédentes sur l'un de ses terrains de prédilection, la montagne. D'habitude, il assommait le Tour dès la première arrivée en altitude. Il gagnait cette première étape de montagne. Cette fois, eh bien, il n'a jamais été capable de le faire. Quand on additionne d'ailleurs les temps des différentes étapes de montagne, il est derrière ces deux dauphins au général, Rigoberto Urán et Romain Bardet. À sa décharge quand même, il a connu des ennuis mécaniques à deux moments importants, deux moments clés de la course, dans l'ascension du Mont du Chat, et puis au pied d'un autre col, le col de Peyrat-Taillad sur la route du Puy-en-Velay. À chaque fois, eh bien, il a dû faire des efforts pour revenir sur les autres favoris. Forcément, ça ne lui permettait pas ensuite d'attaquer. Les forces étaient diminuées. Ce 4e succès sur le Tour, le Britannique finalement l'a construit grâce à sa régularité dans tous les exercices, et notamment le contre-la-montre. On sait maintenant que c'est dans cette spécialité que les écarts sont les plus importants. Ça tombe bien. Lui, Christopher Froome, il est toujours au rendez-vous dans cet exercice. 6e du premier chrono à Düsseldorf, 3e à Marseille samedi dernier.
Et le Britannique peut aussi remercier ses équipiers, hein, puisqu'il s'est appuyé vraiment sur la supériorité de l'équipe Sky. Froome, moins fort cette année. Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que ça représente des regrets tout de même pour les adversaires?
Oui et non, parce que Froome l'a dit lui-même, s'il m'avait attaqué, il l'a dit évidemment à la fin du tour, s'il m'avait attaqué sur l'étape de Peyragudes, j'aurais sans doute perdu beaucoup, beaucoup de temps. Sur le reste, on a quand même eu du bon Froome, bien épaulé par son équipe Sky, vous l'avez dit. Et puis, le regret peut-être, c'est l'abandon de Richie Porte, qui était un coureur complet, l'Australien, fort également en contre-la-montre. On se rappelle malheureusement de sa terrible chute dans la descente du Mont du Chat.
Lazare, vous avez une dernière question.
Oui, voilà. Le Français Romain Bardet est monté sur le podium à la 3e place. Que doit-il améliorer pour espérer gagner le Tour de France dans les prochaines années?
Oui, c'est la 2e fois d'affilée hein, que Romain Bardet monte sur le podium. L'année dernière, il avait terminé à 4 minutes, si ma mémoire est bonne, du Britannique. Cette année, à 2 minutes 20. Que lui manque-t-il pour remporter le Tour?
On l'avait déjà posé cette question l'an dernier. Je vous avais dit qu'il le gagnerait peut-être dans les années suivantes. Là, je dis sans doute. Ce qui lui manque, déjà, il faut quand même dire quelque chose, c'est qu'il a gagné en assurance, Romain Bardet. Il a battu les meilleurs à la pédale dans l'ascension vers Peyragudes. Ce qui lui manque, son gros point noir, c'est le temps perdu justement sur les contre-la-montre, presque 3 minutes déboursées par rapport à Froome sur les 33-34 km de chrono sur ce tour. C'est beaucoup trop, il faut absolument que Romain Bardet progresse dans cet exercice, c'est possible, mais ça demande du travail sur cette discipline qu'il n'apprécie pas vraiment. Et puis un mot sur son équipe, quand même, AG2R a beaucoup progressé, ça reste quand même un petit cran en dessous de l'équipe Sky.
Ah, encore un petit peu de travail donc.
Voilà.
En tout cas, le Tour de France a été marqué par 5 victoires de coureurs cyclistes français. française, qui est quand même un bon résultat, disons-le clairement. Merci beaucoup, Thomas de Saint-Léger. Bien sûr. Bonne journée. Restez avec nous tout de suite, le journal, et on revient dans 10 minutes. Nous dresserons ensemble un état des lieux de la campagne électorale qui se déroule en ce moment même au Sénégal.